Bonsoir, merci d'écouter Fréquence Mistral. Vous êtes dans l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser rentrer la lumière ou de garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvert, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà, et dans la salle plus d'un cœur bat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de 5 Cufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un crouton de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Lycée du Havre, distribution solennelle des prix, le dimanche 12 juillet 1931. Le tout jeune professeur de philosophie Jean-Paul Sartre, alors absolument inconnu, est chargé donc de faire le discours d'usage. Mes chers amis, chaque pays, disait Sainte-Beuve, que je cite de mémoire, a des réjouissances nationales. La Belgique a ses combats de coq, l'Espagne ses corridas, nous avons les distributions de prix. Il faut ajouter que ces fêtes festives sont précédées d'un sacrifice expiatoire. Le plus jeune des professeurs prend à sa charge tous les péchés de l'année et fait publiquement pénitence. C'est ce qu'on appelle le discours d'usage. Lorsqu'il en prononce le dernier mot, la purification est achevée. Ainsi, chaque année, tous les lycées de France abordent en état de grâce l'année scolaire nouvelle. Cette punition est moins dure pour le bouc émissaire que pour ceux qui l'écoutent. Au moins peut-il choisir son sujet. Ce sujet, c'est à peine s'il faut qu'un lien ténu le rattache à la cérémonie. Juste de mon droit, je vais vous parler du cinéma. Feuilletez les souvenirs de quelques écrivains contemporains ou morts depuis peu, vous trouverez sûrement un long récit attendri de son premier contact avec le théâtre. Ce grand bonheur venait tard. Anatole France avait 12 ans quand, dit-il, un événement s'accomplit qui fait époque dans ma vie. J'insistais à la représentation d'une pièce de théâtre. Pendant 24 heures, je vécus agité de crainte et d'espérance, dévoré de fièvre, dans l'attente de cette félicité, motivé et qu'un coup soudain pouvait détruire. Je crus que le jour de la représentation, le soleil ne se coucherait jamais. Le dîner, dont je n'avais pris une bouchée, me parut interminable et je fus dans les transes mortelles d'arriver en retard. Enfin, nous arrivâmes. L'ouvreuse nous introduisit dans une loge toute rouge. La solennité des trois coups frappés sur la scène est suivie d'un profond silence m'ému. Le lever de rideau fut vraiment, pour moi, le passage d'un monde à un autre. Or, ceux d'entre vous qui, dans une quarantaine d'années, écriront leurs mémoires, auront bien de la peine à découvrir dans leur jeunesse de pareilles attentes et de si grands émois. C'est qu'ils sont fréquentés, les salles de spectacle dès leurs petites enfances. Beaucoup n'avaient pas 5 ans qu'ils connaissaient déjà le cinéma, car c'est par le cinéma, non par le théâtre, qu'on débute aujourd'hui. Peut-être souvient-il encore à quelques-uns de premiers films qu'ils virent, mais ses origines lointaines se perdent pour la plupart dans les brumes du souvenir. Ainsi, cette initiation solennelle au rite du théâtre, cette pompe, ces trois coups qui marquaient moins le lever de rideau que le passage de l'enfance à l'adolescence, tout cela n'est plus. On ne s'habille point pour aller au cinéma, on ne s'interroge pas longtemps d'avance, on y entre à toute heure, l'après-midi, le soir. Les Parisiens, depuis quelques mois, y ont même accès le matin. Vous ignorez la longue attente dans un théâtre à demi-plein qui se remplit progressivement et ce passage d'un monde à un autre dont Anatole France vous parlait. Mais vous pénétrez brusquement dans une salle obscure, encore incertaine, tant les ténèbres, l'œil fixé sur la lampe électrique qui zigzague dans la main de l'ouvreuse. L'orchestre joue, qui, comme on peut croire, ne s'arrête pas pour vous. Le film est commencé depuis longtemps. Les héros sont là, les mains ou les jambes en l'air, surpris en pleine action. On vous désigne votre place. Vous vous y glissez en heurtant des genoux, vous vous jetez dans votre fauteuil sans avoir le loisir d'ôter votre manteau. Vous assistez à la fin du film, puis, au bout d'un quart d'heure d'attente, à son commencement. Vous êtes sans émoi, vous savez qu'on punira le traître, que les amoureux se marieront. Puis, au moment précis où les héros reprennent la posture où vous les avez trouvés, vous vous levez, vous heurtez d'autres genoux, vous partez sans vous retourner, laissant les acteurs mains ou jambes en l'air, peut-être pour l'éternité. Voilà un art bien familier, bien étroitement mêlé à notre vie quotidienne. On entre en coup de vent. On parle, on rit, on mange dans les salles de projection. Nul respect pour cet art populaire. Il ne se part point de cette majesté qui entrait pour moitié dans le plaisir que l'art théâtral procurait à nos aînés. Bon enfant est bien plus proche de nous. Avons-nous perdu au change, faut-il regretter les solennités disparues? Si l'on pouvait prouver que le cinéma est réellement un art, nous n'aurions au contraire qu'à nous louer de la transformation des mœurs. Il me paraît que votre irrespect total de l'art cinématographique, vos façons cavalières d'en user avec lui, vous sont bien plus profitables qu'un mélange d'admiration figée, de troubles d'essence et d'horreurs sacrées. Nos grands auteurs classiques, on vous a trop dit, hélas, qu'ils étaient des artistes, vous vous méfiez de leurs belles phrases, prétexte à 1000 questions insidieuses. Et sans doute, peu à peu, malgré vous, vous retirez de leur commerce un bénéfice que vous apprécierez plus tard. Mais il est bon que, dans certaines salles sombres, ignorées des professeurs et des parents, vous puissiez trouver un art discret dont on ne vous ait point rebattu les oreilles, dont personne n'ait songé à vous dire qu'il était un art, vis-à-vis duquel, en un mot, on vous ait laissé en état d'innocence, car cet art-là pénétrera en vous plus avant que les autres, et c'est lui qui vous tournera doucement à aimer la beauté sous toutes ses formes. Reste à prouver que le cinéma est bien un art. Le même Anatole France que nous avons vu si doucement ému la première fois qu'il fut au théâtre, fut sans doute tout autrement affecté lorsqu'il fit connaissance avec le cinéma. Il a dit en effet « Le cinéma matérialise le pire idéal populaire. Il ne s'agit pas de la fin du monde, mais de la fin de la civilisation. » Voilà de bien grands mots. Nous allons voir s'ils sont justifiés. On me dira que cette recherche est inopportune. Si d'aventure, je vous persuadais qu'il y a de beaux films comme il y a de belles épîtres de Boileau, de belles oraisons funèbres de Bossuet, vous n'iriez plus jamais au cinéma. Mais je suis tranquille. Je ne m'adresse à vous que par fiction, car il est sans exemple que vous ayez écouté jusqu'au bout un discours d'usage. Peut-être aussi semble-t-il ironique de discuter sur la beauté de l'art muet dans le moment où nous sommes envahis par les films parlants. Mais il ne faut pas trop tenir compte de ceci. Pirandello disait, non sans mélancolie, que le cinéma ressemble au paon de la fable. Il étalait en silence son merveilleux plumage et chacun l'admirait. Le renard, jaloux, le persuadait de chanter et ouvrit la bouche, poussait de la voix et fit le cri que vous savez. Mais ce qu'Ésope ne dit pas, ni Pirandello, c'est que sans doute après cette expérience, le paon retourna sans se faire prier à son mutisme. Je pense que le cinéma est en train d'acheter le droit de se taire. Je reviens donc à la question, je prétends que le cinéma est un art nouveau, qu'il a ses propres lois, ses moyens particuliers, qu'on ne peut le réduire au théâtre, qu'il doit servir à votre culture, au même titre que le grec ou la philosophie. En un mot, qu'apporte-t-il de neuf ? Vous savez, chaque instant dépend définitivement que l'on est précédé, qu'on est à quelconque de l'univers s'explique absolument par ses états antérieurs, qu'il n'est rien de perdu, rien de vain, que le présent achemine rigoureusement vers l'avenir. Vous le savez parce qu'on vous l'a enseigné, mais si vous regardez en vous-même autour de vous, vous ne le sentez point. Vous voyez naître des mouvements qui semblent spontanés, comme l'agitation soudaine de la cime des arbres. Vous en voyez mourir d'autres, comme des vagues sur le sable, et leur force vive semble mourir avec eux. Il vous paraît qu'un lien fort lâche, unit le passé au présent, que tout vieillit au hasard, en désordre, à tâtons. Or, cette irrésistibilité du temps que nous enseigne la science et dont le sentiment serait insupportable s'il s'accompagnait toutes nos actions. Les arts du mouvement ont pour fin de nous la représenter hors de nous, peinte dans les choses, redoutable encore mais belle. Il y a dans une mélodie quelque chose de fatal. Les notes qui la composent se pressent les unes contre les autres et se commandent étroitement. De même, notre tragédie se présente comme une marche forcée vers la catastrophe. Nul n'y peut revenir en arrière. Chaque vers, chaque mot entraîne un peu plus loin dans cette course à l'abîme. Point d'hésitation ni de retard. Nulle phrase vaine qui permette un instant de repos. Tous les personnages, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, avancent vers leur fin. Ainsi, ces voyageurs égarés qui mirent le pied dans la vase d'un marais ont beau se débattre, chaque mouvement les enfonce un peu plus, jusqu'à les faire disparaître entièrement. Mais la musique est fort abstraite. Paul Valéry a raison de n'y voir que des formes de mouvements qui s'échangent. La tragédie, pour l'être moins, demeure fort intellectuelle. Avec ses cinq actes, ses vers si marqués, elle reste un produit de la raison, comme le nombre et de tout le discontinu. Au cinéma, le progrès de l'action demeure fatal, même s'il est continu. Point d'arrêt, le film est d'un seul tenant. Il ne s'agit plus du temps abstrait et coupé de la tragédie, mais on dirait que la durée de tous les jours, cette durée banale de notre vie a soudain rejeté ses voiles, apparaît dans une inhumaine nécessité. En même temps, c'est de tous les arts le plus proche du monde réel. De vrais hommes vivent dans de vrais paysages. La montagne sacrée est une vraie montagne. La mer de Finitiarare, une vraie mer. Tout paraît naturel, sauf cette marche vers la fin qu'on ne peut arrêter. Quand il n'y aurait dans le cinéma que cette représentation singulière de la fatalité, il faudrait lui réserver sa place dans le système des beaux-arts, mais ce n'est pas tout. Vous vous rappelez cette règle impérative qui domine encore le théâtre. Les romantiques l'ont assoupli, mais ils n'ont pas su s'en défaire. C'est qu'il est comme constitué de l'art dramatique, le vœu de parler de la troisième inutile, l'utilité d'action. Certainement, si vous le prenez dans son acceptation, le plus général, elle est commune à tous les arts. Il faut traiter son sujet, ne point s'en laisser détourner par des sollicitations extérieures, résister au plaisir de rehausser un développement par des touches inutiles, ne jamais perdre de vue le dessin initial. Mais cette règle possède un sens restreint qui vaut seulement pour le théâtre. En ce sens, Il faut que l'action soit une sèche, dépouillée de tout, et qui n'ajouterait que le pittoresque à l'intrigue. Bref, une succession rigoureuse de moments si adroitement liés que chacun d'eux explique à lui seul le moment qui le suit. Mieux encore, une déduction logique à partir de quelques principes qu'on aura posés dès le début. Mais il est une autre pièce, espèce d'unité, qu'on peut déjà trouver en musique. Le compositeur y construit plusieurs thèmes. Il les expose d'abord séparément, en ménageant entre eux des passages insensibles, puis il les reprend, développe, élargit, il les entrelace subtilement. Enfin, dans un mouvement final, ils font étroitement tous ces motifs, représentant les unes par les simples rappels, poussant les autres jusqu'à leur achèvement le plus parfait. Cette unité, qu'on pourrait appeler thématique, ne saurait de tout convenir au théâtre. C'est en vain qu'un romantique allemand a tenté de l'y introduire. La multiplicité des thèmes obligerait en effet, comme le Donogo de Jules Romain, à user de tableaux rapides et coupés. Ce procédé, l'expérience l'a montré, engendre la fatigue. Quelques brèves en outre que puissent être les scènes qui se succéderaient ainsi, elles ne le seraient point encore assez. L'effet des contrastes, des symétries, serait souvent perdu. On ne pourrait sauter de l'une à l'autre, indiquer une ressemblance, puis revenir à la première, insister sur quelques traits, ainsi de suite, pour mettre en lumière les plus subtiles corrélations. Or, telle est précisément la manière du cinéma. L'unité, le film est thématique. C'est qu'un découpage habile peut toujours rapprocher, entrelacer les scènes les plus diverses. Nous étions au champ, nous voici à la ville. Nous croyons y demeurer, l'instant d'après, on nous ramène au champ. Vous savez tout le parti que peut tirer de cette extrême mobilité. Rappelez-vous le Napoléon d'Abelgance. À cette tempête de la Convention, qu'accompagne et souligne une tempête sur la Méditerranée. Une vague s'enfle et se dresse, mais elle n'est pas refoutée, que nous sommes déjà loin sur la terre ferme, parmi les députés hurlants. Robespierre se lève, il va parler, mais nous l'avons quitté, nous sommes en pleine mer, ballottés sur l'esquif de Bonaparte. Un poing brandi, une vague qui roule, un visage menaçant, une trombe d'eau, les deux thèmes s'accusent, s'élargissent, se fondent enfin. D'un motif à un autre, tantôt, le passage sera doux, lent, insensible. C'est ce qu'on appelle en termes techniques le fondu enchaîné. Tantôt, et suivant les besoins rapides et brutales, il peut arriver aussi que grâce à la surimpression qu'on développe plusieurs thèmes simultanément. Mais pour réaliser cette polyphonie cinématographique, il est en outre procédé beaucoup plus élégant, soit deux motifs à unir. Il n'est que d'en faire sortir une certaine situation qui, sans se réduire à tout à fait l'un ni l'autre, symbolique tous les deux à la fois. Voyez La rue sans joie, ce film classique de Pabst. Il montre la misère de la population viennoise au lendemain de la guerre et la débauche crapuleuse de quelques profiteurs. Ces deux thèmes coexistent longtemps sans se mêler. Enfin, les deux séries de courses se rencontrent. Au petit jour, un des profiteurs traverse en auto la rue sans joie pour finir la nuit dans un bouge voisin. En cette même rue, une foule misérable fait queue devant la boucherie. La voiture frôle ces pauvres gens et disparaît. Les deux thèmes, un instant réunis, reprennent leur indépendance. Il semble qu'il n'y ait rien eu que du naturel et du nécessaire, une simple rencontre. C'est que vous n'avez pas vu le film. Les phares de l'automobile balayaient lentement cette foule morne et grelottante, faisant sortir de l'ombre une à une des figures lumineuses et haineuses. Cette lumière éblouissante, ces yeux clignotants, ces corps tassés, usés, cette auto puissante et somptueuse, ces ténèbres trouées, tout cela sans doute est fatal. Mais tout est signe, sous un certain aspect, l'événement, avant de s'évanouir, jette sur le film entier une vive et brève clarté. Ces situations produites par un enchaînement nécessaire, ambigu, pourtant, chargé de sens, ne pensez pas qu'elle soit rare au cinéma. Il est au contraire comme le milieu naturel, vous y trouverez en foule des objets porteurs de signes, humbles ustensiles, où s'est inscrit en abrégé un théâtre ramassé, enroulé sur le sol. Admirez donc cet enchaînement inflexible mais souple, ces entrelacs où s'insèrent des événements pleins de sens, déterminés à la fois par la nature et par l'esprit, cet éparpillement d'actions qui fait place à tout à coup, à des unions fulgurantes et bientôt rompues, ces rappels brefs et fuyants, ces correspondances profondes et secrètes de chaque objet avec tous les autres. Tel est l'univers du cinéma. Certes, les films sont rares qui se soutiennent à ce niveau sans une défaillance, mais vous n'en verrez pas qui soit tout à fait sans beauté. Or, cet univers neuf, je le dis que vous vous y retrouvez fort bien. Vous avez acquis une habileté certaine à vous orienter, dans le dédale de ses intrigues, de ses symboles et de ses rythmes. J'ai vu des hommes cultivés qui s'y perdaient, faute de fréquenter les salles de projection. Mais vous qui les hantez, bien que vous êtes, vous ne pensez encore mettre fin à une impression, ni vos pensées, vous y êtes tout à l'aise. Rien ne vous échappe, rien ne vous déçoit. Vos parents peuvent se rassurer, le cinéma n'est pas une mauvaise école, c'est un art d'apparence aisée, extrêmement difficile dans le fond, et fort profitable s'il est bien pris. C'est qu'il reflète par nature la civilisation de notre temps, qui vous enseignera la beauté du monde où vous vivez, la poésie de la vitesse, des machines, l'inhumaine et splendide fatalité de l'industrie qui sinon votre art, le cinéma. Allez-y souvent, mais c'est un divertissement pour la mauvaise saison. Auparavant, prenez de bonnes vacances.
Français, Belge, Belge, extrémiste, extrémiste, mon président français de souche, mon émigré préféré, mesdames et messieurs les jurés, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, madame Le Pen, public chéri, mon amour. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer ici même, récemment, avec un brio qui m'étonne moi-même, malgré la haute estime en laquelle je me tiens depuis que je sais qu'il coule en mes veines plus de 90% de sang arien et moins de 3 grammes de cholestérol, les débats auxquels vous assistez ici quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Qui pisait une émission de radio comique, ou du moins qui tente de l'être. Alors le rire, parlons-en. Et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de Monsieur Le Pen dans ces lieux voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire pose problème. Les questions qui me hantent avec un H comme dans Halimi sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire de avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui, sans hésiter. Et je répondrai même oui, sans les avoir consultés, pour mes co-religionnaires en subversion radiophonique, Louis Régaud et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, elle, la mort, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile. Et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poil horrible. Donc on peut rire de tout, y compris de valeurs moins sacrées, comme par exemple le grand amour que vit actuellement le petit roi inamovible de la défense passive ici présent. Elle s'appelle Marika, c'est la seule arienne au monde qui peut le supporter, ce qu'on comprendra aisément quand on saura qu'il s'agit de la poupée gonflable en peau de morue suédoise que sa tata Rodriguez lui a envoyée de Lisbonne en paquet fado. Deuxième question. Peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renâcler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces, dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice sous laquelle je ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabol, qui, je le précise à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste, dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son sixième par les gros bras mussoliniens, s'écrit judicieusement à l'adresse du spadassin qu'il accuse d'antifascisme. « Vous vous méprenez, monsieur. Ce n'est pas le locataire du sixième qui est antifasciste. » C'est le fascisme qui est anti-locataire du sixième. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère, disait avec mansuétude le président Senghor, qui est moins pianiste mais plus nègre que Georges Rabol. Pour illustrer ce propos, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une histoire vraie, monsieur Le Pen. Cela nous changera des habituelles élucubrations névropathiques inhérentes à ces regrettables réquisitoires. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement accompagnée de la pulpeuse comédienne Valérie Mérès, avec qui j'aime bien travailler, non pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu'elle a des nichons magnifiques. Nous grimpons dans un taximètre sans bien nous soucier du chauffeur, un monotone quadragénaire de type romorantin, coupe rose et de frais, et poursuivons une conversation du plus haut intérêt culturel tandis que le taxi nous conduit vers le Châtelet. Mais alors que rien ne laissait le prévoir, et sans que cela ait le moindre rapport avec nos propos, qu'il n'écoutait d'ailleurs pas, cet homme s'écrie soudain « Bah moi les Arabes, je peux pas les saquer !» Ignorant ce trait d'esprit sans appel, ma camarade et moi continuons notre débat. Pas longtemps, 30 secondes plus tard, ça repart. « Les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans. Eh ben merci bien. Ah les salauds, leur musique à la con, merde hein. Vous me croirez si vous voulez, c'est le père qui a dépucelé la fille aînée. C'est ça les Arabes. » Ce coup-ci, je craque un peu et dis « Monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. »« Ah bon ? Remarquez votre père, je dis pas, il y en a des instruits. On voit bien que vous êtes propre et tout. D'ailleurs je vous ai vu à Belmar. » À l'arrière, bringuebalé entre l'ire et la joie, nous voulons encore ignorer. Hélas, la pause est courte. « Oui, votre père, je dis pas, mais alors les miens d'Arabes, pardon, hein, ils avaient des poulets vivants dans l'appartement, ils leur arrachaient les plumes rien que pour rigoler. Et la cadette, je suis sûre que c'est lui aussi qui l'a dépucelé, ça s'entendait. Mais votre père, je dis pas. De toute façon, les Arabes, c'est comme les Juifs, ça s'attrape que par la mère. » Cette fois, je craque vraiment. « Ma mère est arabe, monsieur. » « Ah bon ? Oh là là, la Concorde à cette heure-là, il n'y a pas moyen. Avance, connard ! Mais c'est vert, merde ! Retourne dans ton 77 !»« Voyez-vous, monsieur, reprend-il à mon endroit, à mon derrière, voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas que la race, il y a l'éducation. C'est pour ça que votre père et votre mère, je dis pas. D'ailleurs, je le dis parce que je le pense, vous n'avez pas une tête d'arabe. Ça, c'est l'éducation. Remarquez, vous mettez un arabe à l'école et hop, il joue du couteau et il empêche les Français de bosser. Voilà !» 67 rue de la Verrerie, nous y sommes. Ça nous fait 32 francs. Je lui donne 32 francs. Vous êtes pas généreux, vous alors ? Et le pourboire ? C'est comme ça, me vengeais-je enfin. Je ne donne pas de pourboire aux blancs. Alors cet homme, tandis que nous nous éloignons vers notre sympathique destin, baisse sa vitre et me lance. Crève donc, et sale bico ! À moi qui ai fait ma première communion à la Madeleine. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, voilà un homme qui se trompait de colère. Le temps qui m'est imparti socialiste, mais pas national, c'est toujours ça de prix. Ainsi que la crainte de quitter mon nez rouge pour sombrer dans la démonstration politico-philosophique m'empêche de me poser avec vous la question de savoir si ce chauffeur de taxi était de la race des bourreaux ou de la race des victimes ou des deux. Ou plus simplement de la race importune et qui partout foisonne, celle dénoncée par Georges Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers, tous plus ou moins barbares. Ils sortent de leurs trous pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Aussi bien laisserai-je maintenant la parole à mon ami Louis Rego, qui pousse à naguère ici même le plus troublant des cris d'alarme. Les chiffres sont accablants, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde.
Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Maître Rego, nous vous écoutons.
Amis de la justice et du fascisme, bonjour. Freude der Justiz! Und das Faschismus! Herr Hitler! De quoi? Arrêtez, ça vous rend nerveux, ça, président.
Non, c'est le signe que vous avez fait qui me rend nerveux.
Hein, nous sommes en démocratie, président. Ah, bon.
Justement.
De quoi est-ce qu'on accuse donc mon client? Oui, je sais.
Oui. Je sais.
Je sais, comme dirait Gabin, que l'extrême droite, ce n'est pas le fascisme.
Je sais.
Mais on a quand même le droit d'être fasciste, même si on n'est pas d'extrême droite, merde! C'est vrai quoi, les gens, dès que vous dites « je suis fasciste », vous regarde d'un mauvais œil, alors qu'il suffit de ne pas le dire et personne s'en aperçoit. Il y en a marre, je suis un citoyen comme les autres. Vive la France, vive le Führer! Et qu'est-ce que vous croyez, amis de la tolérance? Que nous sommes plus à camp que les autres? C'est faux. C'est faux. Nous sommes aussi énervés que les autres face aux injustices et au laisser-aller, au manque de respect et de responsabilité de nos dirigeants. Savez-vous au moins ce que nous voulons? Eh bien, je vais vous le dire. Une société parfaite! Une société parfaite, amis libéraux, écoutez-moi bien. C'est une société où les chiens font où l'on leur dit de faire! Où il n'y a pas de grève, où les partis politiques ne viennent pas nous beurrer l'arrêt à la télé, où les travailleurs immigrés sont là pour travailler et non pas pour se coincer de couscous ou de morue. Où le terrorisme doit être interdit. Les riches doivent être contents d'être riches et les pauvres contents d'être pauvres. Où tout le monde doit être uni contre tous les autres.
Je propose que wouh.
Ouais.
La même chose.
C'est parti.
Dans un square petit, Benito se moque des manières de Marcello.
Marcello dit à Benito,
tu n'es vilain, tu es pas beau.
Benito dit,
quand je redoutais, j'accurais les efféminés. Tu vivras toi et tes manières une journée particulière.
C'était mignon, c'était taquin, c'était évident déjà gamin.
Mussolini était chafouin.
Allez les enfants.
dans un petit square de quartier.
Petit Adolphe,
petit Moncher, joue au billes sans à rien penser.
Petit Adolphe se fait plumer, il dit:
je serai chancelier et je te ferai voyager. Tu prendras les trains en famille, tu te souviendras du sac de billes.
C'était mignon, c'était coquin, c'est évident déjà gamin.
Hitler était un bout en train.
Nya 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 nya.
Ouais.
Nya 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 nya. Il faut les gamins, les gamines, ronger le mal par la racine.
Ne pas contrarier dans les squares.
Moustache bord, nos chemises noires.
Comme les grands n'ont pas de mémoire, qui font rien qu'à répéter l'histoire. Les petits sont le seul espoir.
Faut pas taquiner les connards.
Non, c'est l'inverse qu'il faut faire.
Mercredi, rude journée. Pas d'école, les minuscules sont lâchés. Il faut rien qu'à embêter les parents qui essaient de faire des chroniques dans le poste. Il faut rien qu'à leur poser des questions idiotes. Tout à l'heure, il y en a une avec du chocolat poisseux plein la figure qui est venue le partager avec mes cheveux sous prétexte de câlin. On ne devrait pas procréer ainsi à l'aveuglette. On devrait élever des poissons rouges. En plus d'engluer, ça pose des questions idiotes. Papa, où c'est le règne animal ? Le père est à son ouvrage, il entend d'une oreille incertaine. On ne dit pas le règne animal, on dit le règne de animal. La maîtresse, elle a dit animal. Je n'aime pas être contredit par des êtres inférieurs, surtout quand j'ai tort. Mais puisque nous sommes mercredi et que vous êtes des milliers, chers adorables minus, à traîner à porter des transistors au lieu de vous rendre utile en défenestrant le chat pour voir si ça rebondit, voici mon cours du soir sur le règne animal. On prend son cahier, on prend son crayon noir. Je ne veux pas de feutre, ça tâche le chocolat. En titre, le règne animal. Animal en un seul mot, imbécile. Le règne animal. L'animal est un être organisé, doué de mouvement et de sensibilité, et capable d'ingérer des aliments solides par la bouche ou à côté de la bouche si c'est du chocolat. Le règne animal se divise en trois parties. 1. Les animaux. 2. L'homme. 3. Les enfants. Les animaux sont comme des bêtes, d'où leur nom. Ne possédant pas d'intelligence supérieure, ils passent leur temps à faire des bulles ou à jouer dans l'herbe au lieu d'aller au bureau. Ils mangent n'importe quoi, très souvent par terre. Ils se reproduisent dans les clairières, parfois même place de l'église, avec des zézettes et des foufounettes. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir, c'est pourquoi ils continuent de batifoler quand ils ont 38,6. L'homme. Remarquons au passage que si l'on dit les animaux au pluriel, on dit l'homme au singulier. Parce que l'homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes, alors que l'homme sème la merde. L'homme est un être doué d'intelligence. Sans son intelligence, il jouerait dans l'herbe ou ferait des bulles, au lieu de penser au printemps dans les embouteillages. Grâce à son intelligence, l'homme peut visser des boulons chez Renault jusqu'à 60 ans sans tirer sur sa laisse. Il arrive aussi, mais moins souvent que l'homme utilise son intelligence, pour donner à l'humanité la possibilité de se détruire en une seconde. On dit alors qu'il est supérieurement intelligent. C'est le cas de M. Einstein, qui est malheureusement mort trop tard, ou de M. Sakharov, qui s'est converti dans l'humanisme enfermé trop tard également. Les hommes ne mangent pas de la même façon selon qu'ils vivent dans le nord ou dans le sud du monde. Dans le nord du monde, ils se groupent autour d'une table, ils mangent des sucres lourds et des animaux gras en s'appelant « cher ami », puis succombent étouffés dans leur graisse en disant « docteur, docteur ». Dans le sud du monde, ils sucent des cailloux ou des pattes de vautours morts et meurent aussi, tout secs et désolés, et penchés comme les roses qu'on oublie d'arroser. Pour se reproduire, les hommes se mettent des petites graines dans le derrière en disant « ah oui, Germaine ». Les enfants, contrairement à l'homme ou aux animaux, ne se reproduisent pas. Pour avoir un bébé, il est nécessaire de croire à cette histoire de petites graines. Malheureusement, les enfants n'y croient pas tellement. À force de voir jouer les animaux dans l'herbe aux heures de bureau, ils s'imaginent dans leur petite tête pas encore éveillée à l'intelligence qu'il faut des zézettes et des foufounettes pour faire des bébés. En réalité, les enfants ne sont ni des hommes ni des animaux. On peut dire qu'ils se situent entre les hommes et les animaux. Observons un homme occupé à donner des coups de ceinture à une petite chienne cocker marrante comme une boule de duvet, avec des yeux très émouvants. Si un enfant vient à passer, il se met aussitôt entre l'homme et l'animal. C'est bien ce que je disais. Ce n'est pas une raison pour nous coller du chocolat sur la figure quand nous écrivons des choses légères pour oublier les vautours.
Consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in high in liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot the restaurant was. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Je suis née le 25 février 1968 à Beyrouth. Mon père était absent le jour de ma naissance. Il venait de prendre le maquis pour libérer la Palestine. Je me souviens de son retour. J'étais dans ma chambre, je venais d'avoir 3 ans. Je vois un homme assez grand, de grands yeux bleus, avec un début de calvitie. Il se jette sur moi, je me sauve en larmes. C'était mon père. Il n'oubliera jamais cette première rencontre. On habitait une grande maison avec mes parents et mes 2 sœurs à Ain el Roumanet, en plein quartier chrétien. Mon père était un laïc fervent. Durant toute sa vie, il a veillé à n'habiter que dans les quartiers chrétiens et à ne nous scolariser que dans des écoles catholiques. Il admirait le Christ, il le comparait à Guevara. Il le trouvait beau et il disait qu'un type qui transforme l'eau en vin ne peut pas être foncièrement mauvais. Quand j'ai eu 5 ans, mon père, de plus en plus laïque, m'a inscrite chez les bonnes sœurs à la Sainte Famille dans le quartier de Baabda. Jamais il ne m'avait dit si j'étais chrétienne ou musulmane. J'adorais fréquenter la chapelle de l'école. Je me saoulais avec l'odeur de l'encens. Je ne ratais jamais les messes en arabe classique et en latin. J'admirais le spectacle des chrétiennes libanaises quand elles entrent dans une église.
Elle se jette avec une telle gourmandise sur la statue du Christ. Elle lui empoigne les hanches. Elle le couvre de baisers sonores des genoux jusqu'au sein. Elle lui lèche le nombril, lui lape les cuisses. J'ai appris à mon tour à prendre le Christ par la taille et à lui baiser le pagne. Je devenais une vraie maronite. À l'école, il était strictement interdit de parler en arabe durant les cours et la récréation. Les bonnes sœurs nous distribuaient durant la première heure des bûchettes qu'on appelait signaux. Dès qu'un enfant prononçait un mot en arabe, un mouchard lui glissait un signal dans la poche. En fin de journée, elle faisait le compte des infractions commises dans notre langue maternelle et nous punissait. Élève turbulente, j'étais chaque jour contrainte de recopier des centaines de fois. Je ne parlerai jamais en arabe. Je n'aimais pas les cours, ni le français, ni le calcul. Mais j'étais une fanatique du catéchisme. J'avalais par poignées les hosties et je me laissais bercer par les histoires de Marie-Madeleine, de Lazare, de Judas, de la pêche miraculeuse. Je jubilais quand sœur Marie nous racontait l'histoire de Jésus et de la prostituée. Beyrouth était une ville de putes et je les imaginais toutes embrassant le Christ pour leur avoir épargné de recevoir des pierres sur la gueule. Ma grand-mère paternelle, syrienne, passait le plus clair de son temps chez nous. Elle venait d'avoir 70 ans. Elle pouvait passer des heures à enduire ses cheveux d'huile d'olive. Elle avait une poitrine d'une opulence rare. Moi, je rêvais de voir ses seins. Un après-midi d'été, elle s'était retirée pour prendre son bain. C'était l'occasion ou jamais. J'ai ouvert d'un coup la porte. Elle était nue, debout, dans la baignoire. Les cheveux tout noirs, le sexe tout blanc, sa peau formait des bourrelets infinis. Et ses seins, inoubliables, pareils à des outres, avec une auréole large comme une orange, lui tombaient jusqu'à la taille. J'ai fermé la porte et j'ai hurlé « Mamie a des seins de vache! Mamie a des seins de vache !» J'ai reçu la première correction de ma vie.
Personne n'aurait cru ce cave prophétisant que par malheur. Mon pauvre petit rat de cave, tu débarquerais avant l'heure. Tu n'étais pas du genre qui vire de bord et tous on le savait. Du genre à quitter le navire et tu es la première qui l'ait fait.
La vie était belle, c'est vrai. Mais mes sœurs et moi, nous étions conscientes très tôt de ne pas être comme les autres. Notre père était un réfugié politique syrien, titulaire d'une simple carte de séjour renouvelable tous les 3 mois, et notre mère, libanaise, ne pouvait pas, en fonction de la loi qui règne dans tous les pays arabes, nous transmettre sa nationalité parce qu'elle était une femme. Nous étions toutes les 3 sans papier dans le pays où nous étions nés. Et dans ce Liban où chacun n'existe que par sa communauté et sa confession, nous n'avions ni communauté ni confession. Nous ne savions pas si nous étions chrétiennes ou musulmanes. Quand nous posions la question à notre père, il répondait « Vous êtes des filles libres, un point c'est tout ». Après les seins de grand-mère, je me suis prise de passion pour les couilles des garçons. J'étais là aussi fascinée par leur texture, ces plis qui ressemblent à du velours côtelé, cette chose qui tantôt est molle et pend comme un fruit pourri, tantôt se dilate et devient lisse comme une pierre ponce. Je voulais en percer le mystère. L'occasion s'est présentée le jour où un de mes jeunes cousins est venu passer la nuit chez nous. Il devait avoir 8 ans. Sans préambule aucun, au moment où tout le monde s'était endormi, je l'ai attiré dans ma chambre, je lui ai enlevé de force son pantalon. Quand j'ai vu son sexe, j'ai ressenti comme une faim de loup. J'ai eu envie de lui presser les couilles comme une grappe de raisin, pas pour lui faire mal, mais par pure gourmandise, pareil à l'envie de malaxer un caramel mou. J'ai serré de toutes mes forces l'objet de mes convoitises. Il a poussé un cri qui a réveillé l'immeuble. Le soir de mon 8e anniversaire, le 25 février 1975, mon père m'attendait seul à la maison. Ma mère était encore à la radio. Il a mis un disque de Nina Simone, I'm Feeling Good. Il a allumé une bougie fichée dans une bouteille de Brillantines. Il m'a demandé de m'asseoir face à lui. Il a pris deux verres de cristal avant de sortir une bouteille de Bordeaux, un Pessac Léognan. Il était sérieux comme pour une messe. Il m'a servi très lentement un premier verre avant de me dire « Dardoura, ma fille, maintenant tu es une grande fille, tu dois commencer à goûter au vrai plaisir de la vie. » J'ai levé mon verre à sa santé. J'ai bu. J'ai senti de la chaleur dans mon ventre. Je regardais les yeux bleus de mon père qui brillaient comme jamais. Je regardais la flamme qui dansait et qui semblait grandir de plus en plus à travers la fenêtre ouverte. J'écoutais Nina Simone. Je voyais la montagne au sommet couvert de neige. Je me sentais monter très haut dans le ciel de Beyrouth. « Alors, ma fille, m'a-t-il demandé, tu te sens comment ?»« Je me sens plus haut que le ciel, papa. » »« Bravo !» Tu as compris la vraie destination du Bordeaux.
Maintenant, mamie, qu'on te séquestre au sein des cieux, que je me déguise en chanteur d'orchestre pour tes beaux yeux. En partant, mamie, je te l'assure, tu as fichu le noir au fond de nous. Quoi qu'on n'ait pas mis de crêpes sur nos putains de bignoux.
Le 13 avril 1975 était un dimanche. Ma mère travaillait à la radio. J'entendais sa voix, elle présentait les émissions. Mon père a augmenté le volume de la radio qui annonçait que des militants du parti nationaliste syrien avaient tué le garde du corps de Pierre Gemayel lors de l'inauguration d'une église à Beyrouth-Ouest. Toute la famille était réunie pour le repas. Il faisait chaud. Je suis montée chez grand-mère au 6e étage. Elle avait préparé un plat de fromage blanc qu'on fait macérer dans de l'huile d'olive. J'étais sur le balcon. Je balançais des boules de fromage dans le vide. J'ai vu les gens courir dans tous les sens. Il y avait des coups de feu. Des hommes couraient vers les vergers. Ma mère est arrivée en courant. Elle avait une boîte de pâtisserie, elle sortait du travail, elle s'était arrêtée au pont d'Aïel-Berouet. Elle avait vu les phalangistes arrêter un bus empli de Palestiniens, les faire sortir pour les abattre, les uns après les autres. Moi, hébétée, je ne comprenais pas. Je continuais à jeter mes boules de fromage dans le vide. L'une d'elles est tombée sur la tête d'un milicien qui, levant les yeux vers le balcon, m'abreuva d'injures. Ce jour-là, la guerre commençait. Le lendemain matin, je suis arrivée à la Sainte Famille, comme tous les jours. J'avais oublié les scènes de la veille. À 16h, au moment de me rendre à la chapelle pour mes cours de catéchisme, sœur Marie-Thérèse m'a arrêtée. « Tu vas où comme ça ?»« Au catéchisme, ma sœur !»« Mais tu es quoi ?» Je n'ai pas compris. Je ne m'étais jamais posé la question, mes parents non plus. Je suis restée interdite. Ma sœur était sur les nerfs. J'ai répondu « Je ne sais pas, ma sœur. » Elle était surprise. Et même entièrement déroutée par ma réponse. « Comment ? Tu ne sais pas ce que tu es ? Tes parents ne t'ont rien dit ? Dis quoi, ma sœur ? Mais d'où tu étais ?» Mon visage s'est illuminé. Je commençais à comprendre. « Si, je suis de Beyrouth !»« Je ne parle pas de ça. Ils ont bien dû te dire à quelle église tu appartenais. » J'ai fait signe que non de la tête. Elle eut pitié de moi. « Ils sont morts ? Ils sont sourds-muets ? « Non, ma sœur, ils parlent, ils sont vivants. » À ce moment, j'ai compris que j'étais vraiment un hiéroglyphe aux yeux de la bonne sœur qui s'est mise à crier « Comment tu ne sais pas ? Tu es au Liban, chacun sait d'où il vient, à quelle communauté il appartient. Nous en avons 17 dans notre pays. Est-ce que tu es arménienne, grecque orthodoxe, grecque catholique, syriaque, maronite ? Même les chats connaissent la confession des maisons où ils sont. Même un chien sait, au flair, s'il est tenu en laisse par un grec catholique ou un grec orthodoxe. Dis-moi d'où il vient, ton père. Il vient de Syrie, ma sœur. Elle a serré sa croix au creux de sa main avant de poursuivre l'interrogatoire. Et ta mère, elle vient d'où? De Beyrouth Est. Elle a souri. Et tes grands-parents, ils sont d'où? De Gandourien, ma sœur. Elle a embrassé sa croix en murmurant « Doux Jésus, une musulmane !» Elle m'a pris par le col de ma petite robe blanche. « Allez, suis-moi. Va jouer dans la cour avec les autres. Tu n'as pas droit au catéchisme, tu es musulmane !» Et moi, plongée dans ce gouffre auquel je ne comprenais rien, je me suis accrochée à sa robe. « Je vous en prie, sœur Marie-Thérèse, ne me privez pas de catéchisme. J'avale toutes les hosties à moi toute seule. Je sais par cœur toutes les histoires. J'aime la messe, ne me chassez pas !» J'ai vu dans son regard bleu un sentiment de pitié. Elle m'a caressé les cheveux en me posant la question avec une voix très douce. « Pourquoi tu aimes tant le catéchisme, mon enfant ?» Dans un élan de vérité rare, j'ai répondu « Pour l'histoire de la pute ! J'adore les histoires de pute !» Elle a embrassé sa croix en marmonnant « Seigneur, on ne les changera jamais !» avant de me crier au visage « Allez, ouste !» J'ai rarement ressenti aussi fort l'injustice.
On ne m'a jamais vu, faut que tu le notes, c'est une rimeur. Faire un œuf avec des croque-notes, c'est en temps, on en a. Sache aussi qu'en écoutant Béchette, folle gamberge, on voit la nuit tomber. Ton fantôme qui sautille en cachette, rue du vieux Colombier. Fantôme qui sautille en cachette, rue du vieux Colombier.
Le tigre et le curé. Dans la jungle, un jour, s'aventure un curé. Le tigre survient. Prions, se dit l'abbé. Seigneur, je t'en conjure, fais que ce tigre soit chrétien. Comment le Très-Haut se débrouille, la chronique n'en parle pas. Le fauve, en tout cas, s'agenouille. « Seigneur, dit-il, bénissez ce repas. »«
Sans aucun au revoir, mes frères, mais on ne t'en veut pas pour autant. Mine de rien, tu es allé faire ton trou dans les neiges d'antan. Désormais, c'est pas des salades parmi Flora, Jeanne, Thaïs. » Inclus ton nom à la balade des belles dames du temps jadis.
Ça ne finira donc jamais. Depuis combien de temps est-on à table? 2 heures? 3 heures? Les 70 ans de grand-père, comme c'est intéressant. S'il y avait encore des enfants, maintenant, il n'y a que moi et mes 2 cousines, des bébés de 6 ans. Je ne sais plus quoi faire pour me désennuyer. Alors, j'imagine, on vient de poser le plateau de fromage sur la table. Je prends un yaourt. En face de moi, ma tante Isabelle parle. Voyons, si je plongeais... J'imagine, bien sûr, je ne fais qu'imaginer. Si je plongeais une cuillère à soupe dans le pot de yaourt, je la pose en équilibre sur le porte-couteau. Je donne un grand coup de poing sur le manche et plaf, en plein dans le décolleté. J'imagine, bien sûr, j'imagine. Mon Dieu, quel scandale ça ferait. Hugo, Hugo, gémirait maman à moitié suffoquée. Mais il est cinglé ce gosse, hurlerait papa. Voyons, je m'en tirerai à combien? 8 jours de privation de sortie, pas d'argent de poche pendant 2 mois. Corvée de vaisselle à perpétuité. Oui, mais j'imagine la tête de tante Isabelle. De longs ruisseaux blancs partout, sur la robe, la poitrine, dans la bouche, les cheveux. Ah, ça la fera taire pour le coup. Boup, 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 boup. C'est tout ce qu'elle pourra dire en se secouant comme une noyée qu'on vient de repêcher. J'imagine. Mais qu'est-ce que je fais avec cette cuillère à soupe remplie de yaourt? Attention de ne rien renverser sur la nappe. Là, je pose la cuillère en équilibre sur le porte-couteau. Non, non, je n'ai pas le droit d'y penser. Ah, cet imbécile en face de moi qui parle et qui se penche en avant offrant au regard son décolleté plongeant. Non, n'oublie pas, pas d'argent de poche pendant 2 mois, corvée de vaisselle à perpétuité.
Oh, trop tard. Un coup de poing sur le manche de la cuillère et un jet de yaourt éclate sur le front, les yeux, la bouche de tante Isabelle, puis se répand, dégoulinant en longs ruisseaux hésitants sur le menton, le cou, la poitrine. Un grand silence, puis des cris perçants. Tentation. Je n'ai pas résisté. Mon père travaillait au cirque Boulionne. C'était lui le dompteur qui dressait la lionne. J'aime à m'en souvenir comme si c'était hier. La lionne se dressait sur un vieux dromadaire. On y dressait son lit l'été comme l'hiver. Mon père, en la dressait un vieux tromblon tout en dressant l'oreille un peu par distraction. Un jour qu'elle dressait dans le buffet sévère, notre lionne affamée a dévoré ma mère. Un juge dressa l'acte d'accusation. Mais l'animal est mort le soir d'indigestion. La mort, cet ennemi dressé contre la vie, en un seul jour, maman et notre lionne a pris. Sur la tombe de maman, on dressa un calvaire. On peut, en s'y dressant, y lire ces deux vers. Si gît notre maman, verte quadragénaire, elle est morte d'un lion en dressant le couvert. Autour de son tombeau, des peupliers se dressent. Ils se dressent à jamais contre notre détresse. Mon Dieu, toi qui dresses montagnes et pâturages, mon père, grâce à toi, est veuf et au chômage. Si jamais, ô mon Dieu, dressé par les remords, tu voulais redresser ce qui nous a fait du tort, tu connais notre adresse au cirque Boulionne. Réjouis ma famille, ressuscite la lionne.
Désolé, je peux pas le prendre.
Oh non, ne me dites pas ça.
Je l'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent.
Parlez clairement, docteur.
D'accord, en clair, il est incroyablement con.
Docteur, il faut me débarrasser de lui, je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile.
C'est un asile de fou, pas un asile de con. Faudrait construire des asiles de con, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
Dans le S, à une heure d'affluence, un type dans les 26 ans, chapeau mou, avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent, le type en question s'irrite contre un voisin, il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. 2 heures plus tard, je le rencontre cours de Rome devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais mettre un bouton supplémentaire à ton pardessus ». Il lui montre où, à l'échancrure et pourquoi. Interrogatoire. À quelle heure ce jour-là passa l'autobus de la ligne Est de midi 23 direction Porte de Champéret? À midi 38? Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus de la ligne S, sus désigné, développé? Qui remarquâtes-vous de particulier? Un particulier qui avait un très long cou et une tresse autour de son chapeau. Son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie? Tout d'abord, non. Il était normal, mais il finit par s'avérer être celui d'un cyclothymique paranoïaque légèrement hypotendu dans un état d'irritabilité hypergastrique. Et pourquoi ? L'été, un peu plus de midi, quand j'ai pu monter dans l'Est. Je monte donc, je paye ma place comme de bien entendu, et voilà type à qu'alors je remarque un zozo l'air-pied avec un coup qu'on aurait dit un télescope et une sorte de ficelle autour du galurin. Je le regarde parce que je lui trouve l'air-pied quand le voilà type à qui se met à interpeller son voisin. Dites donc, qui lui fait ? Vous pourriez pas faire attention qu'il ajoute, on dirait qu'il pleurniche, que vous le faites exprès, qu'il bafouille. Dormez-chez tout le temps, sur les m'panards, arrêtez, qui dit ? Là-dessus, tout fier de lui, il va s'asseoir, comme un pied. Je repasse plus tard, cours de Rome, et je l'aperçois qui discute le bout de gras avec un autre zozo de son espèce. Dis donc, qui lui faisait l'autre ? Tu devrais qu'il lui disait mettre un autre bouton qu'il ajoutait à ton pardingue qui conclurait. Oui, mais enfin, pourquoi ? Moi, je ne sais pas ce qu'on me veut. Oui, j'ai pris l'aise vers midi. Il y avait du monde, bien sûr, à cette heure-là. Un jeune homme avec un chapeau mou. C'est bien possible. Moi, je n'examine pas les gens sous le nez, je m'en fous. Une espèce de galon tressé autour du chapeau. Je veux bien que ça soit une curiosité, mais moi, ça ne me frappe pas autrement. Un galon tressé, il saurait quereller avec un autre monsieur. C'est des choses qui arrivent. Et ensuite, je l'aurais de nouveau revu une heure plus tard. Pourquoi pas ? Il y avait des choses encore plus curieuses dans la vie. Ainsi, je me souviens que mon père me racontait souvent que... Ouais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi l'histoire du bouton ? Alors, l'autobus est arrivé, que je vous dis. Alors, j'ai monté dedans. Alors, j'ai vu un concitoyen qui m'a saisi l'œil. Alors, j'ai vu son long cou et j'ai vu la tresse qu'il y avait autour de son chapeau. Alors, il s'est mis à pester contre son voisin qui lui marchait alors sur les pieds. Alors, il est allé s'asseoir. Alors, plus tard, je l'ai revu cours de Rome. Alors, il était avec un copain. Alors, il lui disait, le copain, « Tu devrais mettre un autre bouton à ton par-dessus. » Alors, et pourquoi ? Nous, garde-chasse de la plaine Monceau, avons l'honneur de rendre compte de l'inexplicable et maligne présence dans le voisinage de la porte orientale du parc de S.A.R. Monseigneur Philippe le Sacré Duc d'Orléans, ce jour du 8-16 de 1783, d'un chapeau mou de forme inhabituelle et entouré d'une sorte de galon tressé. Conséquemment, nous constatâmes l'apparition soudaine sous le dit chapeau d'un homme jeune, pourvu d'un cou d'une longueur extraordinaire et vêtu comme on se vêt sans doute à la Chine. L'effroyable aspect de ce quidam nous glaça les sangs et prévint notre fuite. Ce quidam demeura quelques instants immobile, puis s'agita en grommelant, comme s'il repoussait le voisinage d'autres... Quidam, invisible, mais à lui sensible. Soudain, son attention se porta vers son manteau et nous l'entendîmes qui murmurait comme suit. Il manque un bouton, il manque un bouton. Il se mit alors en route et prit la direction de la pépinière. Attiré malgré nous par l'étrangeté de ce phénomène, nous le suivîmes hors des limites attribuées à notre juridiction et nous atteignîmes, nous trois, le quidam et le chapeau, un jardinier désert, mais planté de salade. Une plaque bleue d'origine inconnue, mais certainement diabolique, portait l'inscription « Cour de Rome ». Le quidam s'agita quelques moments encore. En murmurant, il a voulu me marcher sur les pieds. Il disparut alors, lui d'abord, et quelque temps après, son chapeau. Après avoir dressé procès-verbal de cette liquidation, j'allais boire Chopine à la petite Pologne.
Thank you.
bus bondé, stop, jeune homme long cou, chapeau, cercle tressé, apostrophe, voyageur inconnu, sans prétexte valable, stop. Question, doigt, pied, froissé, contact, talon, prétendu, volontaire, stop. Jeune homme abandonne discussion pour place libre, stop. 14h, place Rome, jeune homme, écoute, conseil, vestimentaire, camarade, stop. Déplacé, bouton, stop. Signé, Arcturus. Dans l'autobus S, considérons l'ensemble A des voyageurs assis à l'ensemble D des voyageurs debout. À un certain arrêt se trouve l'ensemble P des personnes qui attendent, soit C, l'ensemble des voyageurs qui montent, c'est un sous-ensemble de P. Et il est lui-même l'union de C', l'ensemble des voyageurs qui restent sur la plateforme, et de C', l'ensemble de ceux qui vont s'asseoir. Démontrer que l'ensemble C' est vide. Z étant l'ensemble des azous et Z l'intersection de Z de C', réduite à un seul élément à la suite de la surjection des pieds de petit z sur ceux de Y, élément quelconque de C' différent de petit z. Il se produit un ensemble M de mots prononcés par l'élément petit z. L'ensemble C' étant devenu non vide, démontrer qu'il se compose de l'unique élément petit z. Soit maintenant P, l'ensemble des piétons se trouvant devant la gare Saint-Lazare, petit z et petit z', l'intersection de l'ensemble z et de P, B, l'ensemble des boutons du par-dessus, de Z, petit Z, B', l'ensemble des emplacements possibles des 10 boutons selon Z', petit. Démontrer que l'injection de B dans B' n'est pas une bijection. C'est quand même simple, non ? Dans un grand véhicule automobile public du transport urbain désigné par la 19e lettre de l'alphabet, un jeune excentrique portant un surnom donné à Paris en 1942, ayant la partie du corps qui joint la tête aux épaules, s'étendant sur une certaine distance et portant sur l'extrémité supérieure du corps une coiffure de forme variable entourée d'un ruban épais entrelacé en forme de natte, ce jeune excentrique, donc, imputant à un individu allant d'un lieu à un autre la faute consistant à déplacer ses pieds l'un après l'autre sur les siens, se mit en route pour se mettre sur un meuble disposé pour qu'on puisse s'y asseoir, meuble devenu non occupé. 120 secondes plus tard, je le vis de nouveau devant l'ensemble des bâtiments et des voies du chemin de fer où se font le dépôt des marchandises et l'embarquement ou le débarquement des voyageurs. Un jeune homme excentrique portant un surnom donné à Paris en 1942 lui procurait des avis sur ce qu'il convient de faire à propos d'un cercle de métal, de cornes, de bois, etc., couvert ou non d'étoffe, servant à attacher les vêtements, en l'occurrence un vêtement masculin, qu'on porte par-dessus les autres. L'autobus arrive. Un zazou à chapeau monte. Un heure, il y a plus tard devant Saint-Lazare, il est question d'un bouton. Voici, au stop. L'autobus stoppa. Il monta un zazou au cou trop long qui avait sur son caillou un galurin au ruban mou. Il s'attaqua au panard d'un quidam dont harpion, corps, durillon sont avachis du cou. Puis il bondit sur un banc et s'assoit sur un strapontin où nul n'y figurait. Plus tard, vis-à-vis, la station Saint-Machin ou Saint-Truc, un copain lui disait « Tu as ton raglan, un bouton qu'on a mis trop haut. Voilà !» À l'heure où commencent à se gercer les doigts roses de l'aurore, je montais tel un dard rapide dans un autobus à la puissante stature et aux yeux de vache de la ligne S au trajet sinueux. Je remarquais avec la précision et l'acuité de l'Indien sur le sentier de la guerre la présence d'un jeune homme dont le col était plus long que celui de la girafe, aux pieds rapides et dont le chapeau de feutre mou, fendu, s'ornait d'une tresse, tel le héros d'un exercice de style. La funeste discorde au sein de Sui vint de sa bouche empestée par un néant de dentifrice. La discorde, dis-je, vint souffler son virus malin entre ce jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau et un voyageur à la mine indécise et farineuse. Celui-là s'adressa en ces termes à celui-ci. « Dites-moi, méchant homme, on dirait que vous faites exprès de me marcher sur les pieds. » Ayant dit ces mots, le jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau s'alla vite asseoir. Plus tard, dans la cour de Rome, aux majestueuses proportions, j'aperçus de nouveau le jeune homme au cou de girafe et à la tresse autour du chapeau, accompagné d'un camarade arbitre des élégances qui proférait cette critique que je pus entendre de mon oreille agile, critique adressée aux vêtements le plus extérieur du jeune au col de girafe et à la tresse autour du chapeau. « Tu devrais en diminuer l'échancrure par l'addition ou l'exhaussement d'un bouton à la périphérie circulaire. » Voilà. Dans un autobus, un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu de ruban, le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son par-dessus. Voilà, c'est tout.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Thank you.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu un texte rare de Jean-Paul Sartre, écrit en 1931. Le réquisitoire de Desproges dans le tribunal des flagrants délires, consacré à Jean-Marie Le Pen. La journée d'un fasciste de Louise Régaud. Un texte de Desproges extrait de ses chroniques de la haine ordinaire. Des textes de Queneau, extrait d'exercices de style. Des textes de Darina Al-Joundi, extrait de Le jour où Nina Simone a cessé de chanter. Un poème de Jean-Luc Moreau, Le tigre et le curé. Une histoire de Bernard Friot, Tentation. Et un texte de l'Oulipien Patrick Minet, Dressé. Vous avez entendu une chanson de Boris Vian, la bande originale d'Himalaya, la rhapsodie hongroise de Liszt, les joyeux urbains, la musique de mon oncle de Tati. Vous avez entendu un rire d'enfant, Jamiroquai, un extrait de Tais-toi, la musique de Altai Kangai, de Vane, d'Éric Truffaz, de Dominique A, de Georges Brassens et Moustache. Nous remercions nos invités, Alain Giustiniani et Carole Battistini. À la technique de cette émission, Christophe Becquereau. Cette émission est conçue et réalisée par James Fontaine
et Nathalie Vautier.
Nous nous retrouverons le 28 février pour la prochaine émission des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de garder les volets fermés ou de laisser entrer la lumière.